Avez-vous bien dormi?
Oui.
Auriez-vous aimé dormir plus?
Oui.
Est-ce que vous avez eu besoin d'aide pour vous réveiller ce matin? J'aimerais vous remercier d'être ici. Savez-vous que aujourd'hui, c'est le premier jour du reste de votre vie? Aujourd'hui est le premier jour du reste de votre vie. Il y a eu tout ce qui s'est passé dans votre vie avant aujourd'hui, et il y a tout ce qui va se passer dans votre vie après. Et à partir d'aujourd'hui, il peut y avoir des choses qui changent dans vos vies et qui vous propulsent vers des nouveaux horizons. Moi, il y a des moments dans ma vie qui ont été des moments clés où le Seigneur m'a montré des choses, il a fait des revirements. Le jour de mon salut, ça en a été un. Il y a certaines autres vérités que j'ai comprises qui ont été profondes pour moi et qui m'ont propulsé vers d'autres horizons. Et aujourd'hui, ça peut être un moment comme ça. Cette fin de semaine peut être un moment comme ça. On est samedi matin, on a eu une nuit intéressante pour certains, productive pour d'autres, fatigante pour d'autres. Mais on voudrait parler de choses importantes. Et le Seigneur Jésus il a dit, « Vous serez mes témoins. » Et c'est ça qu'on veut apprendre à faire. Il nous attend dans l'éternité et on va avoir à lui rendre compte de ce qu'on aura fait en tant que ses témoins. Donc, aujourd'hui, on aimerait apprendre comment être des témoins efficaces pour le Seigneur Jésus. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin?
Oui.
Merveilleux! Dans un cours de prédication, on nous a enseigné que... Joseph? Dans un cours de prédication, on nous a enseigné que... Tu peux changer? Que 10 % de l'auditoire est avec nous à un moment donné dans notre discussion. Ça fait peur. On espère que pour chacun d'entre nous, le bon 10 % ça va être le 10 % où est-ce qu'on est là. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Merveilleux. On va regarder ensemble ce matin « Évangéliser selon la voie du Maître » et surtout « Le secret le mieux gardé en enfer ». Moi, ce que je vous apporte ce matin, c'est possible que ça vous dérange, c'est possible que ça vous... que je pile sur des orteils, mais en même temps, je pense qu'au fond, vous allez réaliser que ce que je dis vient de la parole de Dieu, ça résonne quelque part vrai. On va mettre en question des façons de faire traditionnellement acceptées aujourd'hui. Mais si ce que je vous dis correspond à la réalité, je pense qu'il faut qu'on aligne nos yeux par rapport à la réalité. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Merveilleux. Depuis 1970, Ray Comfort a eu un ministère d'évangélisation. On pourrait dire international, il a prêché dans des croisades d'évangélisation dans plusieurs églises sur plusieurs continents. Et avec le temps, il y a une chose qui l'a dérangé, c'est qu'il s'apercevait que 80 à 90 des professions de foi finissaient par ne donner rien dans la réalité. Et il y a un sondage que lui avait vu, qui avait été effectué aux États-Unis dans une grande dénomination, qui comportait 11 500 églises. Et cette dénomination-là a comptabilisé toutes les professions de foi que les églises ont eues durant une année, et ça comptait 294 000 professions de foi, à peu près. Sur les 294 000 professions de foi, au bout d'un an, 14 000 personnes étaient comptabilisées comme étant intégrées dans leur église locale. C'est sûr qu'un sondage comme ça, il y a une grosse marge d'erreur. Mais quand même, si on pense 294 000 professions de foi et 14 000 intégrations membres actifs dans une église locale, quel pourcentage de réussite est-ce qu'on trouve dans ces statistiques-là? Un vingtième. Une personne sur 20 qui a fait profession de foi se retrouve membre actif d'une église locale. Est-ce qu'il n'y a pas un problème là? Un sur 20. Si vous vous faisiez opérer pour l'appendicite, Est-ce que vous aimeriez que le taux de réussite de votre chirurgien soit 1 sur 20? Vous aimeriez sûrement pas ça. Et si vous deviez vous faire enligner pour le ciel ou l'enfer pour l'éternité, est-ce que vous aimeriez que le taux de réussite de votre évangéliste soit 1 sur 20? Il y a un problème. Alors, Rick Comfort, ça l'a beaucoup dérangé de voir ça. Et il s'est penché sur la question. Il a regardé l'Épître aux Romains. Il a regardé la façon de faire de grands évangélistes à travers les années, à travers les siècles. On parle de Charles Spurgeon, John Wesley, Dwight Moody, Jésus. Et il a trouvé un principe dans l'Épître aux Romains et dans l'évangélisation à travers les siècles qui est à peu près absent aujourd'hui. C'est un principe, on pourrait dire, qui est oublié, qui a été oublié. Et c'est le secret le mieux gardé en enfer. C'est la chose que les démons, que Satan aimerait faire tout en leur pouvoir pour que ça ne se sache pas. Parce que ça serait trop grave si ça se savait. Le secret le mieux gardé en enfer. Pourtant, c'est un verset de la Bible qu'on peut lire facilement en ouvrant l'Épître aux Galates. Galates 3, 24. La loi est comme un précepteur pour nous conduire à Christ. La loi, c'est-à-dire les commandements de Dieu, se trouve à être comme un précepteur ou un professeur, un enseignant qui nous conduit à Christ, nous montre notre besoin de Jésus-Christ. Une bonne illustration de ça, c'est la loi civile. Par exemple, le code de la route. Si je vous disais, j'ai une bonne nouvelle pour vous, votre contravention de 25 000 $ a été payée. Vous me diriez, ma contravention, quelle contravention? Je n'ai pas de contravention. C'est quoi? C'est quoi ton affaire? Est-ce que ce serait une bonne nouvelle? Ce ne serait pas vraiment une bonne nouvelle. Et en plus, vous diriez, c'est fou ton affaire, c'est quoi? Je n'ai pas de contravention. Et possiblement aussi que vous seriez insulté parce que j'insinue que vous avez fait quelque chose de mal quand vous n'avez aucune espèce d'indication que vous avez fait quelque chose de mal. Ce ne serait pas une bonne nouvelle. Pour que ça fasse du sens à votre esprit, il faudrait que je vous explique quelque chose. Si je vous disais, par exemple, qu'en venant à la conférence hier, vous avez passé dans une zone où c'était clairement indiqué 50 km/h. Il y avait 10 panneaux indicateurs qui indiquent ces 50 km/h. C'était une zone où il y avait un institut pour aveugles. Et à cause du grand danger dans la zone, 50 km/h, et les policiers étaient très fermes sur la question, et à cause du danger, l'amende pour excès de vitesse était de 25 000 $. Maintenant, il y a des photoradars qui vous ont pris et le constat de votre contravention est parvenu dans le courriel de l'Église et peut être imprimé et peut vous être donné. Et là, je vous disais, mais il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il y avait 25 000 $ et qui était prêt à payer votre contravention. Est-ce que ça fait différent? Je vous ai expliqué, j'ai pris le temps de vous expliquer que vous aviez des preuves à l'appui qui confirmaient que vous étiez coupable. C'est un fait établi, il n'y a aucune possibilité d'en sortir. L'amende est 25 000 $. Vous devez, vous êtes coupable, mais il y a quelqu'un qui est prêt à payer à votre place. Là, ça fait du sens, c'est une bonne nouvelle. Donc, si on dit à un non-croyant, Jésus-Christ a payé pour tes péchés, c'est une bonne nouvelle. Non, parce que j'en ai pas de péché. Je n'ai pas besoin que Jésus paye pour moi. C'est une folie pour moi. Et 1 Corinthiens 1,18 dit, « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. » C'est fou! Ça ne fait pas de sens. Ça ne fait aucun sens dans ma tête. Mais si je prends le temps de montrer les 10 pancartes, les 10 commandements qui nous montrent notre culpabilité, là, la bonne nouvelle commence à faire du sens. Maintenant, avec ceci en tête, regardons un petit peu le rôle de la loi de Dieu. Romains 3, verset 19. « Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Quel est le rôle de la loi? Fermer la bouche. Les hommes ont une tendance facilement à se justifier, se considérer comme étant juste, expliquer, excuser notre comportement. Et vous l'avez vu hier avec Jean-Félix. Oui, mais tout le monde fait pareil comme moi. On se compare aux autres et on excuse notre comportement. On se croit juste. Et faites le test. Si vous posez, et la méthode, l'approche d'évangélisation, la voie du maître, nous amène à poser la question aux gens, êtes-vous, croyez-vous que vous êtes une bonne personne? Qu'est-ce que vous pensez que les gens vont vous répondre? La majorité des gens, la grande majorité des gens vont vous dire, oui, je suis une bonne personne. Et Proverbe 16, verset 2 nous dit que toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux. Mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. Donc, chaque personne a tendance à se voir, en grande majeure partie, comme étant juste devant Dieu. Les gens s'excusent, se justifient, je ne suis pas si pire que ça, je ne suis pas si pire que les autres. Et la loi ferme la bouche. Elle met la personne devant les standards de Dieu, parce que la personne ne connaît pas les standards de Dieu, se compare avec ce qu'elle voit autour d'elle. Mais devant les standards de Dieu, la bouche ferme. Et la personne se considère, admet sa culpabilité. Romains 7, verset 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. C'est par la loi que je prends conscience de mon péché. Avant de connaître la loi de Dieu, les commandements de Dieu, la parole de Dieu, je ne considérais pas que j'étais coupable. J'ai une amie qui, il y a bien longtemps, je lui avais proposé, tu devrais lire la Bible. Et plus tard, je l'ai rencontrée, puis je lui ai demandé, et puis, est-ce que tu as eu l'occasion de commencer? Elle m'a dit, ça faisait 2 semaines que je lui avais proposé ça. Elle m'a dit, oui, j'ai fini. Elle avait lu la Bible en 2 semaines. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu as retenu? Est-ce que je devais retenir quelque chose? Elle l'a lu comme un roman. Elle n'a rien retenu. Mauvais. Quand je parle aux gens du Seigneur, puis je leur demande, bon, est-ce qu'ils lisent la Bible et tout ça, ou je les ai encouragés à lire la Bible, et on fait un retour là-dessus, as-tu lu quelque chose? La personne me dit, oui, ça me fait tellement de bien. Je me dis, je ne suis pas certain qu'elle a compris. Si c'est un non-croyant, qu'est-ce que la parole de Dieu devrait faire pour un non-croyant? Devrait-elle un miroir pour lui montrer son besoin de devenir un croyant? Donc, Galates 3, 24, la loi est comme un précepteur, un professeur pour nous conduire à Christ. Et la tragédie dans l'évangélisation moderne, c'est qu'on a un petit peu évacué la loi, le péché, dans l'évangélisation. On a décidé de plus parler de la loi, et ça s'est passé au tournant du siècle. En 1900, aux alentours d'eux, les gens devenaient éduqués, les gens devenaient instruits, on voyait le pouvoir et le potentiel de la science, et on se disait, l'homme est capable de répondre aux grandes questions de l'humanité, de résoudre les problèmes. Les deux guerres mondiales se sont chargées de nous montrer qu'on n'avait pas vraiment autant de réponses que ça. Sauf que dans l'évangélisation, on s'est dit, il faut qu'on arrête de condamner les gens puis de leur dire qu'ils sont pécheurs, qu'ils s'en vont en enfer. Il faut qu'on leur présente un évangile qui va leur apporter quelque chose. Et on leur dit, mets Jésus dans ta vie, tu vas voir, tout va bien aller. On ne vient plus à Jésus pour être sauvé de la condamnation du péché, de la perdition, de la mort éternelle. On vient à Jésus pour être heureux dans la vie. Et la tragédie dans tout ça, c'est qu'on a arraché le cœur de la puissance de l'Évangile. Parce que l'Évangile, c'est la bonne nouvelle qui fait passer quelqu'un des ténèbres à la lumière, d'un état de condamné, esclave du péché, à esclave de Christ. On a arraché le cœur de l'Évangile. Pour voir à quel point c'est tragique ce qui s'est passé, prenons l'exemple d'un vol d'avion. 2 hommes sont assis dans un avion. Au premier, on lui donne un parachute. On lui offre un parachute et on lui dit, prends le parachute parce que ça va rendre ton vol plus agréable. » Et le monsieur n'est pas trop sûr, il est sceptique, et il se demande, « Bon, ben, étant donné que ces gens-là sont des professionnels, ils doivent savoir de quoi ils parlent. » Il prend le parachute, il le met. Et là, il s'aperçoit que c'est lourd. Et avec le temps, dans son vol, il s'aperçoit qu'il fait chaud dans le dessous du parachute et il n'est pas confortable. Et en plus, il s'aperçoit que parmi les autres passagers, il n'y en a pas vraiment qui ont des parachutes. Il se trouve bien seul avec son parachute dans l'avion. Et il s'aperçoit en plus que les gens commencent à le regarder un peu drôle, puis ils commencent à parler les uns entre les autres. Et as-tu vu qu'est-ce qu'il fait avec son parachute? Il commence à se moquer de lui. Et lui, étant de plus en plus mal, voyant les autres se moquer, à un moment donné, il se lève, il prend le parachute, il jette ça à terre, il dit « C'est terminé, on ne m'y prendra plus jamais avec un parachute dans un avion. On m'a trompé. Mon vol n'est pas mieux, il est pire. » Prenez par contraste un deuxième passager à qui on a dit « Mets le parachute parce qu'on a des problèmes avec notre moteur, nos moteurs. » On est à 10 000 mètres d'altitude et c'est très possible que dans les prochaines 30 minutes, on doive toutes sauter dans le vide. Prenez le parachute et mettez-le. On va devoir sauter tout probablement dans les 30 prochaines minutes. Alors le monsieur, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son parachute, il le met, il l'attache comme il faut, il s'assure qu'il est bien installé et il attend. Et s'il fait chaud en dessous de son parachute et s'il est inconfortable avec son parachute, pensez-vous qu'il va vouloir l'enlever? Il ne voudra pas l'enlever. Et en plus, il va regarder les personnes à côté de lui, il va dire, « Est-ce que tu as ton parachute? Sais-tu qu'on va devoir peut-être sauter dans le vide dans à peu près 30 minutes? Est-ce que tu as ton parachute? » Il ne se préoccupera pas de l'inconfort léger que son parachute lui occasionne parce qu'il sait que peut-être bientôt il va devoir sauter dans le vide. Et que s'il n'y a pas son parachute avec lui, c'est la mort certaine. Celui à qui on dit « Mets Jésus dans ta vie, tout va bien aller. » À un moment donné, s'il a décidé de suivre le Seigneur Jésus, il va se retrouver avec des épreuves, avec des moqueries, avec des difficultés, des persécutions. Et qu'est-ce qu'il va penser? On m'avait dit que tout allait bien aller. Est-ce qu'il ne va pas avoir envie de tout laisser cela? Est-ce qu'il ne va pas se sentir trompé? Est-ce qu'il ne va pas se sentir amer d'avoir été trompé? Est-ce qu'il ne va pas claquer la porte en disant « on ne m'y reprendra plus jamais » Est-ce qu'on ne vient pas de décrire là quelque chose qui se passe régulièrement dans nos églises? Des gens qui rentrent par la porte d'en avant et qui sortent par la porte d'en arrière. Quelle est la cause? On leur a annoncé un évangile avec un faux motif. Tu vas être bien. Est-ce que c'est vrai que le Seigneur Jésus, quand il vient dans la vie de quelqu'un, il donne la joie, il donne la paix? Vrai, hein? Mais il promet aussi des persécutions. Il promet aussi des épreuves. Comme on a traité le maître, on va aussi traiter le disciple. Heureux serez-vous quand on vous persécutera, quand on vous outragera, on dira toutes sortes de mal à cause de moi. Il a promis ça aussi. Donc, quel est le message que nous avons à prêcher? Quel est le message que nous avons à prêcher? On va tous avoir à sauter dans le vide bientôt. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi on doit se présenter devant Dieu pour rendre compte de notre vie. C'est ça le message. Et c'est tellement important de prêcher le bon message, parce que l'enjeu est éternel. 1 sur 20, on voudrait augmenter l'efficacité de notre évangélisation. Et aussi, une deuxième chose, c'est qu'on va tous avoir à faire face à Dieu. Acte 17, 30, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. Verset 31 dit, « Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde, selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné une preuve, à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. » Est-ce qu'on évangélise avec la perspective, « Regarde, tu vas devoir sauter dans l'éternité bientôt et tu vas devoir faire face à celui qui t'a créé. Tu vas devoir rendre compte à celui qui t'a donné la vie. Et c'est ça, l'Évangile. Évangile veut dire bonne nouvelle. Mais s'il n'y a pas eu de mauvaise nouvelle avant, la bonne nouvelle ne fait pas de sens. C'est quoi la bonne nouvelle? Jésus est venu sauver de la mort, de la perdition éternelle, ceux qui sont incapables d'obéir à Dieu, qui sont coupables. Si on pousse notre illustration un petit peu plus loin, dans notre avion, il y a une hôtesse de l'air qui vient d'être engagée et elle est vraiment nerveuse à sa première journée de travail et elle veut faire bonne impression. Et en arrivant avec le cabaret plein de café, elle se trouve à le renverser sur notre passager avec le deuxième passager qui a été évangélisé pour la bonne raison. Et lui, il sait que tout bientôt, il va probablement avoir à sauter dans le vide et à sa mort s'il n'y a pas son parachute. Et là, il reçoit le café sur ses jambes, brûlant. Ah, ça brûle! Est-ce que vous pensez qu'à cause de cette épreuve-là, il va dire, « Moi, c'est fini, j'enlève mon parachute puis je laisse tout ça là. » Je pense qu'il va se dire, hey, « ça brasse dans l'avion, moi, je m'accroche à mon parachute. As-tu le tien, toi? » Voyez-vous? Qu'est-ce que les épreuves de la vie vont faire à celui qui est venu au Seigneur pour les bonnes raisons? « Hey, c'est bientôt! » À l'action! On s'en va bientôt! On saute dans le vide bientôt! Qu'est-ce que tu fais? As-tu ton parachute? Voyez-vous, les épreuves vont affermir celui qui est venu au Seigneur pour les bonnes raisons. Donc, l'Évangile sans la loi n'amène personne au salut. La conviction de péché par la loi de Dieu sauve. Abbé Earle disait ceci, « J'ai trouvé, selon mon expérience, que les menaces les plus graves de la loi de Dieu ont une place importante pour conduire les hommes au Christ. Ils doivent se voir perdus avant de pleurer pour la pitié. Ils n'échapperont pas au danger jusqu'à ce qu'ils le voient. On ne saute pas en dehors de la route avant d'avoir vu le camion s'en venir vers nous. » Maintenant, si tu sautes dans l'eau, pour aller chercher quelqu'un qui est en train de nager, et tu nages le plus vite que tu peux, tu vas, tu le prends et tu le ramènes sur le bord de l'eau, et que là, il te regarde. Qu'est-ce que tu fais là? J'étais en train de nager. Et là, tu vois que tu as fait une folie. Mais si, au contraire, tu vois dans les yeux du gars, il sait qu'il est en train de se noyer. Il a bu la tasse pour la troisième fois et là, il est en train de surnager pour sa survie et tu vois dans ses yeux qu'il vient de voir sa vie passer devant lui, il sait qu'il s'en va. Et là, tu vas, « Est-ce que je peux t'aider? » Le gars sait qu'il a besoin et quand il va arriver sur le bord, il va te remercier, il va te suivre partout, il va te dire, « Qu'est-ce que je peux faire pour toi? » Sa vie va être redevable parce qu'il sait que tu l'as sauvé de la mort. Avant d'intervenir dans la vie de ton collègue de travail, de ta mère, de ton cousin, avant de commencer à te mêler des choses intimes de sa vie, est-ce que ce ne serait pas important que la personne sache qu'elle est perdue et qu'elle s'en va en enfer? Un médecin dit à son patient, à une consultation, « Je vous ai apporté le remède pour la maladie de Toulnoustouk. » Et vous allez juste un petit peu perdre vos cheveux, vous allez avoir un peu de nausée, vous allez avoir de la difficulté à dormir la nuit, mais prenez ça, ça va aller mieux. Qu'est-ce qui va être la réaction? Maladie de Toulnoustouk, ça ne m'intéresse pas. Il peut être bien, bien beau, votre médicament, bien, bien bon, ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas de médicament à prendre. Mais si le médecin prenait au contraire 10 bonnes minutes pour vous expliquer, j'ai le regret de vous informer que vous avez la maladie de Toulnoustouk. Et les radiographies qui ont été prises, que voici, démontrent la maladie. Les tests sanguins sont clairs, formels. Vous avez cette maladie. Et aussi, les autres tests hormonaux prouvent sans aucun doute que vous avez la maladie. Et la maladie est mortelle en 3 mois. Mais j'ai une bonne nouvelle. Il y a un médicament pour la maladie de Toulnoustouk. Et vous allez juste un petit peu perdre vos cheveux, vous allez avoir un petit peu de nausée, vous allez avoir un peu de difficulté à dormir, mais le médicament est disponible pour vous. Est-ce que ça change la perspective des choses? Il y a un évangéliste qui disait, « Si vous me donnez 10 minutes pour parler à quelqu'un des choses de Dieu, je vais prendre 9 minutes pour parler du péché, de la loi du péché, et après, une minute pour parler de la grâce. » Et je pense qu'on parle le même langage. Donc, évangéliser bibliquement, c'est quoi? Prendre le temps d'apporter la loi aux orgueilleux et après, la grâce aux humbles. Jacques 4, verset 6 dit, « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Il faut qu'on admette qu'on est pécheur avant de désirer la solution. Donc, pourquoi est-ce que Jésus est venu? Qui est-ce que Jésus peut sauver? Luc 4, verset 18. Jésus était venu pour les pauvres, pour guérir, ceux qui ont le cœur brisé. Marc 2, verset 17. Jésus dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin d'un médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais ceux qui comprennent, qui réalisent, qui sont pécheurs. Donc, évangéliser bibliquement, je vais juste le répéter, c'est la loi aux orgueilleux, la grâce aux humbles. La loi avant la grâce. Et on peut dire, vous ne pouvez pas condamner des pécheurs. Hein, parce que si on se remet dans le contexte dans lequel on est, écoute, c'est mauvais. Juste parler de péché, parler de mal, parler de la loi, on ne peut pas commencer à condamner les pécheurs. Personne ne va venir au Seigneur Jésus. Mais savez-vous quoi? Si on parle de la loi, on ne condamne pas les pécheurs. Ils sont déjà condamnés. Nous, on fait simplement d'essayer de les aider avec amour, avec compassion, à réaliser qu'ils sont déjà condamnés. Jean 3, 18, « Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. » Déjà jugé. Les gens sont jugés coupables. Votre mère vient dépousseter la table du salon, ou vous venez dépousseter la table du salon. Vous avez pris du pledge ou quelconque produit, vous avez essuyé ça bien comme il faut, et là, vous allez ouvrir le rideau et rentre un rayon de soleil qui éclaire la table. Qu'est-ce que vous allez voir sur la table? La poussière. Et qu'est-ce que vous allez voir dans le rayon de soleil qui mène à la table? Plein de poussière. Sans la lumière, on ne voit pas la poussière. Mais la lumière montre ce qui est là dans l'air et qu'on ne voit pas sans la lumière. La lumière de la parole de Dieu montre ce que l'œil humain naturel ne voit pas, le péché. Nous sommes pécheurs, perdus, on ne le voit pas. La lumière de la parole révèle ce que l'œil naturel ne peut pas voir. Et comment est-ce que ça marche sur le terrain, dans la réalité? On va voir la voix du Maître. Comment Jésus faisait ça dans son ministère terrestre? Donc, on va voir, premièrement, dans l'exemple de la Samaritaine au puits. Comment est-ce que Jésus a interpellé la Samaritaine au puits? Une première chose, c'est qu'il a commencé avec les choses naturelles. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? « Pourras-tu me donner à boire, s'il te plaît? » Et là, la femme puise pour lui. Et elle lui demande pourquoi il lui parle à elle qui n'est pas juive. La deuxième chose que Jésus fait, au début, là, Jésus commence avec les choses naturelles, avec ce qui est là. La deuxième chose que Jésus fait, c'est qu'il aborde les choses spirituelles. Délibérément, il prend la conversation et il la tourne vers les choses spirituelles. Et là, il lui dit, « Si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te parle, tu m'aurais demandé à moi de l'eau et je t'en aurais donné. » De l'eau vive. Et donc là, Jésus aborde, il tourne la discussion vers le spirituel. Qu'est-ce que Jésus fait après? Et ça, c'est l'élément important, on pourrait dire, c'est qu'il utilise la loi pour convaincre de péché. Comment Jésus a fait ça? Il est allé directement sur le bobo. Lui connaît tout. Il connaît le cœur de la Samaritaine et en quelques mots, il va cibler en plein dans le mille de son péché. Qu'est-ce qu'il lui dit? Appelle ton mari. Oh! Le septième commandement, tu ne commettras pas d'adultère. Il le sait. Il me connaît. Donc, Jésus cible, fait prendre conscience à la Samaritaine son péché en lui demandant d'aller chercher son mari. Et là, il lui annonce, quatrième étape, il lui annonce l'Évangile. Il lui dit, la femme dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il va être venu, il va nous annoncer toutes choses. Et Jésus, qu'est-ce qu'il lui dit? Je le suis, moi qui te parle. Après lui avoir fait voir son péché, il lui présente le Messie qui, dans son cas, lui, était lui-même. Résumé, l'approche est simple. Jésus commence avec la Samaritaine par les choses naturelles. On parle de boire. Et après ça, il fait exprès pour amener les choses sur une discussion spirituelle, de l'eau vive, de l'eau spirituelle qui remplirait ton cœur jusqu'à ce qu'il déborde. Et après ça, il lui fait voir son péché à travers la loi. Amène ton mari. Et après qu'elle a pris conscience de son péché, il lui présente le Sauveur, le Messie. Je le suis, moi qui te parle. Ça, c'était Jésus avec la Samaritaine. Il a fait la même chose avec le jeune homme riche. Mais on va voir aujourd'hui, ça ressemble à quoi? Avec un autre, face à face. Et, Seigneur, fais que la technique fonctionne ce matin. On va voir Véronique. Oui. Est-ce que le son est plugué? Oui, OK, c'est beau. Parfait. Véronique, une autre personne qui a accepté qu'on puisse lui poser des questions. Et vous allez voir encore une fois que l'entretien est très convivial, mais on parle des réelles choses. Pensez-vous que Véronique est sauvée? C'est pas évident encore. Maintenant, pensez-vous que Véronique a entendu des choses qui vont pouvoir la faire réfléchir? Trouvez-vous qu'on a discuté des vraies choses? Est-ce que c'était convivial? C'est surtout moi qui posais des questions et Véronique parlait. Seulement à la fin, j'ai expliqué le plan du salut en 3 versets, mais pour le reste du temps, je lui posais des questions et elle répondait. Et je ne sais pas si vous avez pu voir un peu dans son visage, mais à plusieurs reprises, on voit qu'elle réfléchit. Et à plusieurs reprises, on voit qu'elle a dû admettre des péchés. Elle a dû admettre des choses concernant sa destinée éternelle qu'elle n'avait probablement jamais réfléchi avant. Et encore une fois, je veux juste vous dire que ce n'était pas important pour moi qu'elle fasse une profession de foi directement à ce moment-là, parce que c'était peut-être la première fois qu'elle entendait ces choses-là. Et peut-être qu'elle était éventuellement un fruit qui serait très mûr, mais je ne la sentais pas mûre au moment même. Mais juste pour voir qu'en une discussion, en quelques minutes, on est entré directement dans les choses importantes et elle a pu entendre et admettre des choses cruciales par rapport à sa vie. Donc, on a semé une semence dans son cœur et n'oublions pas la puissance d'une question. Une question peut mettre en branle un processus, comme je vous l'expliquais hier soir pour moi-même. Jacques, en quoi est-ce que tu crois? Après cette rencontre-là avec cette jeune femme-là que moi j'ai eue au moment où j'avais 20 ans, après qu'elle m'a posé la question et que j'ai réalisé que je ne savais pas la réponse, pour moi ça a commencé un temps de recherche qui a duré 3 mois et qui a abouti à ma nouvelle naissance. Et pour Véronique, elle a eu plusieurs questions qui lui ont été posées et qui peuvent provoquer justement cette vraie recherche de la vérité, puis une vraie conversion, plutôt qu'une profession de foi qui ne donnera aucune espèce de différence dans sa vie, parce que là, elle est mise face aux vraies réalités. 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 2. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs de la parole de Dieu, de ceux qui dispensent la parole de Dieu, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Donc, le succès dans l'évangélisation, ce n'est pas la profession de foi qu'on a tiré sur le fruit qui n'était pas prêt, qui ne savait pas qu'est-ce qui se passait, puis qu'on a, on a fait un converti, mais qu'on a été fidèle à exposer la vraie réalité de la parole de Dieu. Donc, est-ce que c'est possible de parler des vraies choses, du péché, sans indisposer une personne? C'est possible. On n'a pas besoin d'avoir peur de parler du péché. Si on a l'amour pour les gens qui périssent, qu'on réalise, cette personne-là va peut-être aller en enfer pour l'éternité. Est-ce que je l'aime assez pour lui parler en étant prêt à l'écouter? L'aime assez pour lui parler avec compassion, avec la supplication dans mes paroles? Si moi je peux le faire, crois-moi, tu peux le faire. Tu es au moins aussi doué que moi. Ça, je peux te dire ça. Donc, Matthieu 4, verset 19, Jésus disait, « Suivez-moi, je veux faire de vous des pêcheurs d'hommes. » Et peut-être que tu dis dans toi-même, « Hey, pour moi, là, évangéliser, c'est comme marcher sur l'eau. » Mais Jésus, c'est le spécialiste à faire marcher des personnes sur l'eau. Demandez à Pierre. On a seulement à lui demander, comme Pierre a fait, « Seigneur, ordonne que j'aille vers toi et sortir du bateau. » Prions. On a découvert ce matin, Seigneur, le secret le mieux gardé en enfer, que la loi est le précepteur, le professeur qui nous amène à Christ. Que la loi est le miroir dans lequel on voit nos péchés, qui nous montre notre état perdu et notre besoin de Jésus. On a vu une façon de faire comme ce que toi tu faisais. Tu utilisais la loi pour amener les gens à voir leurs besoins. Seigneur, aide-nous avec ces outils à sortir du bateau. Et avec amour, avec compassion, compréhension, interpeller les gens en ton nom, avec l'Évangile, tout le conseil de Dieu, pas seulement une partie. Merci Seigneur Jésus. Amen.